Bonjour à tous. Ce matin, on va avoir un culte un petit peu spécial. J'ai proposé qu'on se saisisse de la liberté qui est la nôtre pour adapter la forme du culte à un texte biblique. Souvent, on choisit de méditer des textes courts. Et aujourd'hui, j'ai proposé qu'on organise le culte autour d'un texte long. Et donc, pendant le culte, on aura plusieurs fois le schéma lecture biblique et prolongé par des réflexions, et ensuite répondre à ce qu'on a entendu par des chants, par un moment de prière. Et voilà, donc on aura plusieurs fois ce schéma qui revient, lecture, chant, prière, lecture, chant, prière. Alors, le texte qu'on va lire, c'est le chapitre 11 de l'Évangile de Jean, et on le lira presque en entier. Ce chapitre se termine avec l'annonce de la condamnation à mort de Jésus par les responsables religieux, et c'est pour ça qu'on prendra la scène à la fin du culte. Mais tout d'abord, avant de commencer cette lecture, je vous invite à adorer Jésus par un chant, Jésus qui a nul autre pareil, « Ô Jésus, mon Sauveur ». Je vous invite à vous lever.
Évangile de Jean, chapitre 11. Dans un village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire
« Seigneur, ton ami est malade. »
Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit
« Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. »
Qu'est-ce que Jésus veut dire par là ?
Une des premières choses que l'on peut répondre à ce genre de questions, c'est que Jésus voit souvent autre chose que ce que nous voyons à première vue. Il y a une autre dimension que celle qui est immédiatement visible. Un homme, un ami de Jésus, Lazare, est malade. Mais ce que Jésus voit, ce sont des implications spirituelles, invisibles, mais très réelles. Plus précisément, Jésus voit le but, la finalité, ce à quoi tout cela va servir. Et c'est la gloire de Dieu le Père, la gloire de Jésus son Fils. Et en fait, c'est bien là que devrait être le but de toute action, de toute situation et de tout événement.
On se demande comment cette maladie va atteindre ce but.
Verset 5. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples :
Retournons en Judée.
Maître, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas ?
N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière.
Je comprends les disciples. Ce qu'ils disent est logique. Si Jésus se fait arrêter, leur monde s'écroule. Mais aussi, comment alors Dieu pourrait-il être glorifié ? Si Jésus ne peut plus faire le bien, comment peut-il glorifier le Père ?
Et je comprends ta question. Ton regard est logique. Cependant, Jésus est dans un autre raisonnement. Il ne contredit pas de front ce que disent les disciples, mais encore une fois, il les amène à réfléchir autrement. Eux sont sur le registre du danger, de la survie. Et lui, Jésus, est sur un autre plan.
J'ai l'impression que ça arrive souvent. Que Jésus nous demande de changer notre regard sur une situation.
Oui, c'est toute la force et la beauté de la maturité chrétienne. Il nous faut apprendre à considérer nos circonstances avec le regard de Dieu. Apprendre à regarder comme Dieu, même si cette expression est un peu vertigineuse. Car lui, Dieu, a une connaissance infinie de tout. Il est le seul sage. Ce qui veut dire qu'il est plus sage que chacun d'entre nous et qu'aucune autre personne.
Alors pour revenir à notre texte, d'accord, Jésus n'aborde pas le voyage en Judée sous l'angle du danger comme les disciples, mais sa réponse est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire « n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas sur les obstacles parce qu'on voit clair, mais si on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. » Quel est le rapport avec le fait d'aller voir Lazare ?
Jésus est probablement en train de rappeler que chaque chose doit être faite en son temps. Il y a le jour, il y a la nuit, chacun a 12 heures. Et marcher, c'est probablement une manière de dire que nous devons faire ce que Dieu attend de nous au moment où il a pensé bon que nous les fassions. Faire les œuvres qu'il a préparées pour nous, chacune en son temps. Ne pas attendre qu'il soit trop tard, c'est assez clairement, si je peux dire, l'image des ténèbres. Faire trop tard, c'est arriver après les 12 heures du jour.
Faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous, chacune en son temps. Si j'ai bien compris, c'est cela qui prime pour Jésus sur sa sécurité à lui.
Oui, on peut le dire comme cela. Jésus ne renonce pas à sa sécurité. Il la fuit en disant souvent que son heure n'était pas arrivée. Mais il ne fait pas de sa sécurité la priorité. Il veut accomplir ce qui est bon, ce qui est juste. Et Jésus voit sa sécurité dans le fait de faire les œuvres que Dieu a préparées pour lui. Au moment où Dieu les a préparés. Être dans la volonté de Dieu, voilà ce qui est bon, ce qui est la sécurité, pourrait-on dire. Et si on revient au début de notre texte, c'est la manière de glorifier Dieu. Dans la suite du texte que nous allons lire dans quelques instants, nous allons retrouver ce que nous venons de voir. Les disciples et Jésus ont un angle très différent dans leur regard. Et ils ont du mal à se comprendre. En tout cas, les disciples ont du mal à comprendre Jésus. Nous l'avons compris ce matin, je le redis, ne sourions pas des disciples, mais comprenons à quel point nous leur ressemblons. Cultivons une attitude d'humilité qui demande à Dieu de nous révéler sa volonté. Devant un texte aussi connu que Jean 11, reconnaissons que nous aussi, il nous arrive d'être un peu perdus devant les déclarations de Jésus.
On va continuer un tout petit peu la lecture et après nous aurons un petit moment de chant et un moment de prière et de silence. Et pendant ces chants et ce moment de prière et de silence, nous voulons adorer Dieu, le seul sage. Et nous voulons aussi lui demander de nous guider parce qu'il est le seul sage.
Verset 11. Après avoir dit cela, Jésus ajouta.
Notre ami Lazare s'est endormi. Je vais aller le réveiller.
Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison.
En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors, il leur dit clairement.
Lazare est mort et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui.
Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples.
Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui.
Je vous invite à vous lever pour chanter deux chants maintenant, car Dieu est un Dieu puissant. Et puis, dans un esprit de prière, devant ces déclarations quelquefois si surprenantes, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Pardon, c'est pas la bonne tonalité. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi. Tu es le Dieu un premier temps de recueillement. Les temps de silence sont permis, de prière à haute voix aussi, que Dieu nous parle et inspire nos prières. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Elle est si riche, elle est si profonde, elle est inépuisable. Nous avons tellement besoin que tu nous aides à la recevoir, à continuer à l'entendre, à continuer à nous laisser éclairer par elle. C'est une de nos prières pour ces instants que nous passons devant toi ce matin. Amen. 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 C'est le moment pour les enfants pour rejoindre leur classe d'école du dimanche. Et nous demandons bien sûr à Dieu de les éclairer aussi. Nous avons tous besoin que Dieu nous aide à recevoir sa parole. Et les enfants ont aussi besoin que le Seigneur les aide à recevoir ce qui peut déjà éclairer leur chemin.
Nous continuons la lecture. À son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus :
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera.
Ton frère reviendra à la vie.
Je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts.
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde.
Écoutons cette réponse de Jésus, qui est probablement la partie particulièrement connue, mémorisée de tout ce chapitre. Ton frère reviendra à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 3 remarques. Remarquons tout d'abord, tout simplement, que devant la réalité de la mort, Jésus affirme qu'il n'est pas dépassé, qu'il n'est pas démuni, qu'il n'est pas débordé par le mal et par la mort, mais qu'il affirme qui il est. Il est la vie, il est vainqueur, il reste lui-même, le Créateur, la vie, la lumière. Rien ne le dénature, rien ne le déstabilise, rien ne le détrône. Il est stable, éternel, il est Dieu, il est la vie. Deuxièmement, entendons, devant cette affirmation tellement riche de Jésus, ce qui nous concerne directement. Et voyons cette main tendue que Jésus nous offre. Celui qui croit en moi vivra. Ça, c'est pour nous. Le Créateur donne la vie à ses créatures. Le bon berger offre la vie à ses brebis. Et vous vous souvenez quel genre de vie il offre à ses brebis ? La vie en abondance. Et enfin, troisièmement, entendons l'appel à la foi dans ce texte. Cette main tendue, cette affirmation sont aussi des appels. Un appel à croire, un appel à le reconnaître, même dans les bouts de chemin tellement douloureux, difficiles que sont, par exemple, les chemins du deuil. Celui qui croit en moi vivra. Jésus affirme qui il est. Jésus promet que le grand Dieu bon donne la vie. Et Jésus nous appelle à la foi. Écoutons aussi ce que ce texte nous dit par Marthe.
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe avait cette confiance que Jésus aurait eu le pouvoir de guérir son frère. Elle avait entendu dire ce que Jésus faisait, et ce ne serait pas étonnant qu'elle l'ait vu elle-même opérer des guérisons. On peut comprendre cette phrase comme l'expression d'un regret, la tristesse que son frère n'ait pas été au bénéfice du pouvoir de guérison de Jésus. Mais on peut aussi comprendre cette phrase comme une affirmation tranquille d'un fait. En fait, on ne sait pas trop parce qu'on n'a que le texte, on n'a pas la vidéo. Donc on fait des hypothèses. Mais il y a la phrase qui suit. « Je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Dans cette phrase, une petite parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse, on peut remarquer que Marthe a bien repéré la relation de proximité entre Jésus et son Père et l'accord parfait qui existe entre eux. Alors dans cette deuxième phrase, certains voient une demande timide et voilée que Jésus redonne la vie à son frère. Mais d'autres expliquent que ça ne peut pas être le cas, puisque juste après, Marc évoque la résurrection finale de tous. Et donc, quand elle parle de la résurrection de Lazare, elle pense à la fin des temps. Et puis aussi, quand Marthe sera devant le tombeau, elle paraîtra effrayée quand Jésus lui demande d'ouvrir le tombeau. Elle dira, il doit déjà sentir. Donc, devant le tombeau, elle pense que rien ne s'oppose à la mort. Mais qu'est-ce qu'elle dit quand même quand elle dit « Je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Quand on dit qu'elle ne peut pas demander la résurrection immédiate de Lazare, ça me paraît pas tout à fait... Enfin, je ne suis pas à l'aise avec ça. Parce que je pense que Marthe, comme nous, on peut avoir des fluctuations dans notre foi. Des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. On n'est pas en bois. Et... pendant la maladie de son frère, Marthe a attendu Jésus. Elle a dû se dire plein de fois quand est-ce qu'il arrivera, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore là. Et puis son espoir a été déçu. La maladie a gagné, la vie a quitté le corps de son frère. Maintenant Jésus est là, lui qui a tant de pouvoir et tant de compassion, et lui qu'elle connaît si bien. Il est là, elle le voit, elle peut lui parler. Donc pourquoi ne pas lui demander l'impossible? Parce qu'une résurrection, il s'agit de l'impossible. Mais qui est-elle aussi pour commander Jésus? C'est pour ça que sa demande est timide et voilée. Plus tard, quand Marthe sera devant le tombeau, elle sera dans un autre contexte. Elle sera de nouveau entourée de gens qui expriment bruyamment le deuil. Elle aura vu Jésus pleurer et croire à l'impossible sera moins évident. L'exemple de Marthe nous montre que notre foi est soumise à des pressions et elle peut connaître des fluctuations. C'est pas étonnant. Mais cependant, devant le tombeau, Jésus fera remarquer à Marthe qu'il attendait autre chose d'elle et il attendait que sa foi ne faiblisse pas. Il lui dira, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, devant Jésus, la foi de Marthe est réelle. Quand elle est devant Jésus, face à face avec Jésus, à ce moment-là du récit, dans ce dialogue, sa foi est réelle, elle est forte. Elle dit, je sais, je crois. Et Jésus attend aussi que nous, on ait ce genre de foi, une foi ferme, une foi solide. Pour moi, la foi de Marthe, à ce moment-là, elle est basée sur trois choses. Elle est basée d'abord sur la personne de Jésus, sur ce qu'elle a vu de lui, sur ce qu'elle connaît déjà de lui. Cette foi est basée aussi sur la parole de Dieu, donc l'Ancien Testament et les paroles de Jésus pour Marthe. Pour nous, la parole de Dieu, c'est la Bible en entier. Il y a deux moments dans le récit où on peut voir que la foi de Marthe est basée sur la parole de Dieu. Quand elle dit « Tu es celui qui devait venir », elle fait référence au texte de l'Ancien Testament qui annonçait le Messie. Et devant le tombeau, quand Jésus lui dira « Ne t'ai-je pas dit ?», il attendait qu'elle croie à ses paroles, qu'elle s'appuie sur ses paroles pour ne pas douter. Dans notre vie, si nous avons des hésitations sur ce que Dieu peut et veut faire concrètement pour nous, nous avons aussi un guide clair sur lequel appuie notre foi, c'est la Bible, dans laquelle il se révèle. Alors nous ne nous privons pas de muscler notre foi, de faire grandir notre foi en fréquentant souvent cette Bible-là qu'il nous a donnée. Pour moi, il y a une troisième chose qui permet à Marthe d'avoir une foi réelle, c'est le lien entre les deux. L'attachement à la personne de Jésus ne doit pas être que sentimental, il doit grandir et se fortifier avec la parole de Dieu. Mais inversement, connaître par cœur la Bible ne conduit pas forcément à un attachement à Jésus. Il faut du lien entre les deux. Marthe a fait le lien entre la personne de Jésus, ce qu'elle connaissait de lui, sa relation d'amitié, et la parole de Dieu. Et pour nous, faire le lien, c'est dans notre vie de prière. Une vie de prière approfondie, nous pourrons faire le lien entre ce que nous savons de Jésus et une vie vécue réellement avec lui, en communion avec lui, et grâce à l'action de l'Esprit-Saint en nous. Alors Marthe avait une foi réelle, une foi ferme. Elle savait ce qu'elle croyait, elle savait ce qu'elle savait. Et je vous propose de chanter deux chants, on va peut-être pouvoir rester assis, où dans ces chants, on dit aussi ce qu'on croit et ce qu'on sait de Jésus. Je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Tu as payé pour tous, et je crois que tu es là,
et je crois que tu es là,
présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir,
tout puissant pour nous guérir,
et par ta grâce nous pardonner. Dans la suite du récit, Jésus va redonner la vie à Lazare, ce qui montre que la mort ne lui résiste pas. Et d'autres textes de la Bible révèlent que tous les hommes ressusciteront à la fin des temps et que les croyants vivront éternellement auprès de Dieu. C'est ce que croyait Marthe et c'est aussi notre espérance. C'est quoi une espérance ? C'est en même temps qu'on y croit fermement, on se réjouit à l'avance et on remercie Dieu pour cette perspective. Voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face,
voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable bonté.
Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. laissé sur moi. Me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Nous pouvons continuer à prier avec nos propres mots. Si quelqu'un veut commencer dans l'assemblée.
Voir mon Sauveur face à face. Quelle ineffable réalité. Oui, Seigneur, aide-moi à vivre cette journée, à vivre chaque journée, en y pensant plus, pour avoir des pensées plus justes, des attitudes plus justes, des priorités plus justes. Pardon pour tout ce qui, dans ma vie, dérape, parce que je n'ai pas cette conscience plus présente à mon esprit que bientôt je serai devant toi. Amen.
Marthe confesse que Jésus est celui qui devait venir et Jésus vient de lui dire qu'il est la vie. Je vous propose de célébrer le Fils de Dieu qui est venu donner la vie. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant.
C'est bon de le louer ensemble. Continuons la lecture, verset 28. Là-dessus, Marthe partit appeler sa sœur Marie. Elle ayant prise à part, elle lui dit :
Le maître est là, il te demande.
À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit :
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému.
Où l'avez-vous enterré ?
Viens, Seigneur, tu verras.
Jésus pleura. Alors, tous dirent :
Voyez comme il l'aimait.
Et quelques-uns remarquaient :
Il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ? Marie se jette aux pieds de Jésus. Elle exprime le même constat que sa sœur. Jésus aurait pu guérir son frère, empêcher sa mort. Mais elle ne va pas plus loin dans la réflexion.
Ecclésiaste chapitre 3 nous dit « Il y a un temps pour tout ».
Marie pleure. Elle est différente de Marthe et Jésus respecte cette différence. Il ne lui demande pas de raisonner. Marie pleure et Jésus est touché par ses pleurs.
Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer. Marie pleure. Elle ne comprend pas que Jésus ne soit pas venu plus tôt guérir Lazare. Elle est au début du processus de deuil. Elle a du mal à réaliser ce qui lui arrive, la réalité qui est là. Elle ne verra plus son frère. Pourtant, il y a si peu de temps encore, il lui parlait. Elle pouvait le toucher, ils mangeaient ensemble.
Marie pleure. Comment envisager l'avenir sans lui ? Lazare a toujours fait partie de sa vie.
Marie pleure. Elle laisse libre cours à ses émotions. Et Jésus est touché par cette tristesse.
Il ne lui demande pas de refouler ses sentiments. Il ne lui demande pas de se contrôler. Il ne cherche pas à la raisonner. Ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour tout. Jésus est lui-même profondément touché par ce qu'elle exprime et par ce que ceux qui l'accompagnent expriment. N'ayons pas honte de vivre des émotions authentiques.
Mais comme Marie, vivons-les devant Dieu. Vivons-les dans sa présence, vivons-les avec lui. Le Seigneur nous accueille avec nos émotions. Amen.
Le Seigneur est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Le Seigneur est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures. Le Seigneur est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes ses créatures.
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, se voile, entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voile, entendez-vous. Je veux vous sauver tous.
Oui, Jésus pleure, lui aussi. Il est touché, ému, affecté. Sa sagesse, sa toute-puissance, évoquées au début de ce culte, ne sont pas un détachement des réalités qui nous affectent.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je comprends pourquoi Marie pleure. Elle doit faire face à la séparation d'avec son frère Lazare. Mais Jésus, lui, sait qu'il va ressusciter son ami. Il ne vit donc pas le drame de la séparation. Alors, pourquoi pleure-t-il ?
C'est une question importante et pas si simple qu'on ne pourrait le penser à première lecture. Puisque, comme cela vient d'être rappelé, Jésus sait que Lazare va ressusciter. Il y a plusieurs manières d'y répondre et je vais vous proposer quelques pistes. Premièrement, Jésus est touché par la tristesse de ceux qui l'entourent, c'est certain. Lui sait que Lazare va ressusciter. Mais la tristesse du deuil est néanmoins une tristesse que Jésus partage. Il n'est pas triste de la même façon, mais cette tristesse des autres le touche. Il n'est pas de marbre devant la souffrance des autres, de loin pas. Et c'est très juste. Et c'est normal. Cela a déjà été dit, je le répète. Ne refoulons pas la tristesse et les émotions du genre sous prétexte qu'avec Dieu tout va bien. Jésus a accueilli la souffrance. Jésus a compati. Jésus a lui-même été triste. Mais pas de la tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc Jésus pleure parce qu'il est sensible au deuil que vivent tous ceux qui l'entourent. Deuxièmement, moins habituel, un peu surprenant, le texte nous dit que Jésus fut profondément indigné et ému. Et le texte original est clair, il ne s'agit pas simplement de tristesse, mais de regret. Jésus est indigné, quelque chose attriste Jésus, pas simplement parce que le deuil est triste, mais parce que quelque chose lui fait de la peine. Pourquoi est-il triste devant ce qui se passe ? À nouveau, deux raisons probables. Il est indigné devant la mort et devant les conséquences du péché. La mort est horrible, elle produit le malheur et de multiples ravages. Même si ce jour-là Lazare va ressusciter, la mort est bel et bien objet d'indignation, conséquence du péché. Grande souffrance de l'humanité. Et Jésus est devant la mort. Jésus est d'autant plus indigné qu'il est lui-même la vie. Il l'a déjà dit, il le redira. Il est l'auteur de la vie, il décide la vie, il donne la vie. C'est lui qui porte tout projet de vie. Il a le pouvoir de donner la vie, de la maintenir. Rien de ce qui est vivant n'existe en dehors de lui. Je le crois. Et beaucoup d'entre vous le croient. Il est la vie et il s'apprête à le rappeler, à le démontrer de manière magistrale dans quelques instants, en ressuscitant son ami devant tous. Jésus s'indigne devant ce qui s'oppose à la vie, ce qui l'abîme, ce qui la détruit. Jésus s'indigne devant le mal. Pour nous aussi, nous indigner devant le mal, nous indigner devant les conséquences du péché, c'est une attitude juste, une attitude cohérente, une attitude en phase avec notre foi et un Dieu juste et bon. Il y a de multiples choses qui peuvent et doivent nous indigner. Une seconde cause d'indignation, plus gênante à formuler, mais qui semble bien être là, c'est que Jésus est triste devant le manque de foi. Vous vous souvenez, il l'a souvent dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Et on est surpris quand il leur dit ça, après la tempête sur le lac, on comprend plus facilement les disciples que Jésus. Il leur dit, mais où est votre foi? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a deux cas dans les évangiles où il nous est dit que Jésus a pleuré? Et cela peut nous aider à réfléchir à ce qui peut indigner Jésus ce jour-là, avec l'amour immense, parfait qui est le sien. Il est néanmoins triste devant le manque de foi. Il y a deux cas dans les évangiles où il nous est dit que Jésus a pleuré. Ici et devant Jérusalem. Luc 19, 41. Pourquoi Jésus a pleuré en arrivant à Jérusalem? Parce que la croix l'attendait, non? L'angoisse l'a saisi, c'est vrai. Mais là, il est dit précisément qu'il a pleuré parce que Jérusalem n'écoute pas. Parce que cette foule manque de foi. Et Jésus a pleuré. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Je suis à coup sûr en dessous des émotions de tristesse qui devraient être les miennes quand je marche avec et devant des personnes dont la foi est malmenée ou la foi n'est pas là. Bouche ta vilainée parce qu'une jeune chrétienne a été trop émue en marchant de Mulhouse et en pensant à tous ces gens qui ne connaissent pas le Sauveur. Belle émotion. Ce jour-là, Jésus est devant la faiblesse de la foi de Marthe et de ceux qui l'accompagnent. Et comme il a dit, « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Il dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois ?» Un peu parallèle à « Où est votre foi ? Pourquoi si peu de foi ?» C'est vrai que même si Jésus n'avait pas ressuscité Lazare, la tristesse des croyants ne devait pas être la même que le désespoir des non-croyants, le désespoir de ceux qui n'ont pas d'espérance. Jésus pleure donc, probablement au moins pour ces deux raisons. Il est touché au plus profond de son être par les conséquences désastreuses de la mort elle-même et parce que il est en situation de deuil. Et aussi probablement devant le manque de foi sur terre. Et devant ce qui peut submerger même ceux qui croient dans l'épreuve et qui les prive du soutien qu'ils peuvent trouver dans la foi en celui qui est la vie et la résurrection. Écoutons ce que dira l'apôtre Paul quelques années plus tard en écrivant aux Thessaloniciens.
Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, pour que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Jésus a pleuré. Être triste, c'est normal. Devant la mort en particulier. Mais ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. S'il nous arrive d'être désespérés devant la mort d'autres croyants, nous sommes probablement touchés, et je le suis, par la faiblesse de notre foi, de ma foi. Demandons à celui qui est la vie et la résurrection de fortifier notre foi pour que nos pleurs, notre tristesse ne soient pas comme ceux de ceux qui n'ont pas d'espérance.
Oui, nous pouvons connaître la tristesse et le chant que nous allons chanter maintenant est une prière qui confesse que, au sein de l'épreuve, la présence de Dieu est un sûr réconfort. Et oui, aussi, nous avons une espérance. Nous chanterons un deuxième chant qui proclame cette joyeuse espérance du retour de Christ.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve des plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans la douleur, tout près de toi.
Ne soyons pas tristes de la même manière que le reste des hommes. Nous croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant.
Plein d'espoir, levons la tête, car bientôt Jésus revient. Tous nos cœurs seront en fête, il viendra chercher les siens. Quel éclat de la tempête, non, notre âme ne craint rien. L'espérance du royaume ne nous laisse point confus. En nos cœurs jaillit un psaume de louange et de salut. Nos espoirs ne sont que chaume hors de toi, Seigneur Jésus. Viendra ce jour de gloire, notre Dieu nous l'a promis. C'est lui seul qui fait l'histoire, il vaincra ses ennemis. Lorsqu'on marche à la victoire, l'espérance s'affermit.
Je vous propose un nouveau temps de prière. Vous pouvez prendre place. Seigneur, merci parce que devant toi, nous pouvons être vrais. Merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes, avec nos émotions. Merci, Seigneur, parce que aussi tu veux faire progresser notre foi. Et merci parce que notre vie ne s'arrête pas ici. Merci parce que déjà aujourd'hui ici, tu es avec nous, tu nous accompagnes tous les jours. Oui. Mais merci parce que tu nous prépares aussi un avenir où il n'y aura plus de souffrance et où on sera près de toi toujours. Amen.
Amen. Amen.
Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse
je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.
Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre.
Enlevez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, dit alors.
Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là.
Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?
On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit
« Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour tous ceux qui m'entourent, croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors de là !»
Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge.
Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller.
En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup de ceux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns, cependant, s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait.
Moment extrêmement émouvant encore. Et des surprises pour nous, encore. Parmi ces surprises, c'est assez surprenant probablement pour beaucoup de lecteurs, comme nous, que rien ne soit dit des réactions de Marthe et de Marie. Cela a dû être une joie immense, la stupéfaction. Jean n'en dit rien. Rien non plus de ce que Lazare a pu dire. Cela peut nous paraître dommage. Nous pouvons regretter de ne pas en savoir plus. Mais acceptons de ne pas savoir beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas de savoir. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'apôtre Jean choisit de rester dans une ligne éditoriale. Il reste là où il veut nous faire mieux connaître qui est Jésus et ce que cet épisode extraordinaire nous apprend. Et ce qu'il nous dit s'insère parfaitement avec ce qu'il a dit avant le récit, ce qu'il dira après. Devant Jésus, il y a 2 attitudes possibles. On l'écoute ou on le rejette. Et cela fait partie des grandes surprises devant des textes comme celui que nous lisons lentement, complètement ce matin. Comment peut-on rejeter quelqu'un comme lui ? Et puis on peut noter le calme de Jésus. Certains parleraient peut-être de pragmatisme. Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Certains sourient, ils ont c'est une attitude possible et toute belle. Vous vous souvenez peut-être d'une autre occasion où Jésus a dit « Mais donnez-lui à manger à cette jeune fille qu'il venait de ressusciter. » Comme si ce qui venait de se passer n'empêchait pas que les choses normales soient. On ne va pas dire qu'une résurrection est normale, mais la vie continue. Et Jésus a incroyablement les pieds sur terre. Il est calme. Rien ne le déstabilise. Rien ne lui fait perdre ses moyens. Pour Jésus, la vie continue. Notre curiosité n'est pas toujours satisfaite, mais Jean choisit de nous enseigner solennellement la foi de Jésus en son Père, le témoignage que Jésus veut apporter aux personnes présentes, et bien sûr, le pouvoir que Jésus a, le pouvoir que Jésus Dieu a, de redonner la vie. Ainsi est illustré, prouvé, démontré la déclaration fondamentale que Jésus a faite ce jour-là. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.
Qu'est-ce qu'on fait de cette vérité ? Est-ce que nous allons nous attacher à Jésus, lui demander de nous communiquer sa vie ? Amen. Puiser en lui les ressources pour vivre ? Vivre avec lui ? Ou est-ce que nous allons rester suspicieux ou même indifférents ? Jésus a dit à un autre moment, « Je suis le pain de vie. » Est-ce que je cherche en lui ma nourriture quotidienne pour vivre ? Ou est-ce que je me tourne vers d'autres choses ou d'autres personnes pour me nourrir, entre guillemets, ou pour exister ? Le message est clair. Nous avons besoin de Jésus pour vivre la vraie vie. Si nous entendons sa voix, ne nous endurcissons pas. Nous sommes fous si nous nous privons de lui. Je vous invite à vous lever.
Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir. Celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui c'est Jésus. Jésus.
Je vous invite à prendre place. Oui, c'est lui qui a changé ma vie. Oui, c'est lui qui est la vie. Oui, c'est lui que je veux écouter. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et nous pouvons encore lui répondre pendant un nouveau temps de prière maintenant, si quelqu'un veut bien commencer ce temps de prière. Oui, Seigneur, merci parce que c'est toi qui as changé ma vie, c'est toi qui continues à le faire. Merci pour ta patience immense. Merci parce que nous pouvons être ensemble devant toi ce matin, avec des périodes de foi très fluctuantes quelquefois, mais avec ta parole, avec ta présence, au bénéfice de l'œuvre de ton esprit. Et nous t'adorons. Amen. Cinquième et dernière partie de ce grand chapitre annonçant la crucifixion.
Quelques-uns, cependant, s'en allèrent trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil.
Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors, les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation.
L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole.
Vous n'y entendez rien. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ?
Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers les mondes et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus.
Surprise. Encore. Un texte si extraordinaire, un jour de résurrection, de grande victoire. Et notre récit se termine ainsi. C'est ce jour-là que les chefs des Juifs ont pris la décision de faire mourir Jésus. Texte de grande victoire et texte qui nous rappelle la dureté du cœur de l'homme. En lien avec le reste de son évangile, Jean note la progression, l'escalade de l'opposition à Jésus. Ceux qui le rejettent en viennent à décider de le tuer. Et vous le savez, de tuer Lazare. C'était très dérangeant, ce Lazare. Et la folie peut nous conduire à décider de tuer ce qui dérange plutôt que de changer d'avis. La folie peut nous conduire à préférer tuer ce qui dérange plutôt que de changer d'avis. Nous sommes devant le côté sombre des conséquences du péché, de la nuit, de l'aveuglement. Le jour et la nuit sont deux grands thèmes de tout l'évangile de Jean. La vie est la lumière, la mort est les ténèbres. Nous sommes devant l'incroyable réalité de la dureté du cœur de l'homme et devant la merveilleuse réalité de la patience et de l'appel de Dieu. L'incroyable dureté du cœur de l'homme, la merveilleuse réalité de la patience et de l'amour de Dieu. Et c'est au milieu de ces deux réalités qui s'opposent, de cette grande tension, que Jean va à nouveau annoncer le salut. Proclamation centrale de la mort du juste pour offrir le salut à tous. Et Caïphe, grand prêtre cette année-là, va dire ce qu'il n'a peut-être pas compris, probablement pas complètement, au moment où il l'a dit. Vous ne comprenez rien. Ne vous rendez-vous pas compte qu'il est avantageux pourvu qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas ? Bien sûr, si Caïphe avait connu Jean 3,16, on pourrait dire qu'il avait Jean 3,16 en tête. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a permis que le salut soit annoncé au milieu de cette grande tension, la dureté du cœur de l'homme, la bonté, la patience de Dieu. Et Caïphe annonce qu'il est avantageux, bien sûr, pour l'humanité, qu'un seul meure, pour que tous aient accès au salut. Adorons-le. Parce qu'il a choisi d'être celui qui offre le salut. Deux attitudes, souvenons-nous de cela, entre autres, devant ce texte si riche, que le Saint-Esprit nous aide à repasser dans notre cœur tout ce qui peut nourrir notre foi, nourrir notre adoration. Mais souvenons-nous, entre autres, de cet enseignement très clair de Jean qui nous dit qu'il n'y a que deux attitudes possibles. On l'accueille ou on le rejette. Puisse ce jour être un jour où nous l'accueillons. Puisse ce jour être un jour où beaucoup l'accueillent, plus c'est mieux. Et où certains qui ne l'ont peut-être jamais accueilli choisissent la vie. Aujourd'hui, nous dit Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ est ma sagesse. Je vous invite à chanter la première strophe simplement de ce chant avant la scène.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche par sa sûre main.
Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Bienvenue à la table du Seigneur, avec nos faiblesses, nos doutes et le soutien de la parole et de l'esprit qui peuvent nourrir notre foi. Je lis encore quelques lignes dans l'évangile de Juin, dans l'évangile de Jean, pardon, à la fin de l'évangile, qui nous parle des derniers moments de Jésus avant sa mort. Jean 19. Au verset 17, Jésus, prenant sa croix, sortit de la ville appelée vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Qu'est-ce que nous dit ce texte bien connu ? Que Jésus est mort comme un brigand, tout simplement. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, le roi des Juifs. » Mais écrit, « Il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Que nous rappelle ce texte ? Que Dieu, que c'est le sauveur du monde. Et que Dieu domine tout, même la façon dont Pilate va dire les choses. Et même son attitude devant ceux qui lui disent « Non, corrige ton texte !» dit « Non, c'est fait. » Il domine tout. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'est afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Que nous dit ce texte ? Que tout ce que Dieu a décidé arrivera. Même un habit, pas déchiré, parce qu'il avait prévu, parce qu'il avait voulu que cet habit ne soit pas déchiré. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. La grande victoire a été remportée il y a 2000 ans par celui qui a été condamné à notre place, qui 3 jours après est ressuscité comme preuve de sa suprématie sur la mort, comme preuve de sa grande force, de sa toute-puissance.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi, je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, ô divin, c'est pas taché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus, attaché, à toi, Jésus, attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter la bannière sur laquelle formeront un royaume, la terre sera leur pays.
Bonne suite de journée, bonne semaine. Christ est roi. Tu veux nous dire quelque chose? Oui.